Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson.
Traduction, Lena Grumbach et Marc de Gouvena. Adaptation et dialogue, Sophie Bocquillon.
Maître Bloman, Lisbeth Elander, vous êtes mon nouveau tuteur.
Je pense que vous avez compris qu'il n'est pas facile d'être une langue.
Toi et moi, nous allons être de bons amis. Mais toi, je nous...
Moi, c'est Harriet, l'enquête sous ma peau. Il meurtre non résolu. Vous ronge. À tout jamais.
Michael, embrasse-moi.
Dans le calepin d'Harriet, il y a 5 noms associés à autant de numéros de téléphone. Je suis persuadé que lorsque l'on saura à quoi correspondent ces noms et ces numéros, alors le mystère Harriet sera en grande partie résolu.
4e épisode.
C'était encore meilleur que l'autre soir. Surtout, n'hésite jamais à venir me voir.
Je pensais que tu voulais pas d'amant.
Je vais adopter ton fonctionnement. Un amant occasionnel. Mais j'ai juste 2 conditions. Primo, que tu ne restes jamais dormir ici.
D'accord. Et deuxio?
Que tu n'ailles pas crier sur les toits d'Edestadt notre liaison.
Je ne vois pas pourquoi je le ferais.
J'ai envie d'un verre.
Un truc bien fort avec du gin. Ça te dit?
Volontiers.
Pourquoi tu es venu chez moi l'autre soir?
J'en avais envie.
Tu étais chez toi à lire l'enquête d'Henrik, et soudain tu viens me voir. On n'a pas besoin d'être bac plus 12 pour comprendre que tu avais une idée derrière la tête. Avant que je te demande de m'embrasser, bien sûr.
Tu l'as lu, cette enquête?
En partie. J'ai vécu toute ma vie d'adulte avec cette satanée histoire. On ne peut pas fréquenter Henrik sans être contaminé.
C'est un problème fascinant. Un mystère de la chambre close à l'échelle du Nil. Rien dans l'enquête ne semble suivre une logique normale. Toutes les questions restent sans réponse. Tous les indices mènent à un cul-de-sac. Le néant total.
Faut croire que ça peut arriver.
Tu étais sur l'île ce jour-là?
Bien sûr. J'ai suivi tous les événements. À l'époque, je faisais mes études à Stockholm. J'aurais mieux fait de rester chez moi avec une grippe ce week-end-là.
Et comment était Harriet? Vraiment? Tout le monde en parle avec des mots différents.
Tu veux dire, la dernière année? Je ne sais pas ce qu'elle avait dans la tête. Un jour, elle était frappadingue religieuse. Le lendemain, elle se maquilla à outrance et allait à l'école avec le pull le plus moulant de son armoire. Pas besoin d'être psy pour comprendre qu'elle était malheureuse.
Et pourquoi, d'après toi?
À cause de ses parents, Isabella et Gottfried, bien sûr. Quel désastre, leur mariage. À tel point que Gottfried est parti s'installer à l'autre bout de l'île, tout seul dans une cabane. De temps en temps, on le voyait au village, complètement saoul. On aurait dit un clochard.
Et Harriet, personne n'avait envie de l'aider?
Si, Henrik. C'est pour ça qu'elle est allée habiter chez lui. Mais elle était souvent en voyage. Il n'avait pas beaucoup de temps pour elle. Harriet ne pouvait se confier à personne. J'ai compris que le problème venait de là. Elle essayait de maintenir les apparences, de faire comme s'ils étaient une famille heureuse, jusqu'à la noyade de son père. Là, elle ne pouvait plus faire semblant.
Et c'est là qu'elle a changé?
Oui. Elle était d'une intelligence brillante, surdouée. Elle avait toujours les meilleures notes partout. Mais c'est comme si elle n'avait plus de vraie personnalité.
Et comment son père s'est noyé?
Il est tombé d'une barque juste en bas de sa cabane. C'est son fils Martin qui l'a trouvé.
Ça, je le savais pas.
Martin a beaucoup changé. En vieillissant, il est devenu une personne vraiment bien. Si tu m'avais demandé il y a 35 ans, je t'aurais dit qu'il était celui de la famille qui avait le plus besoin d'un psy. Lui aussi souffrait de la situation. Il était taciturne, renfermé. Les 2 enfants vivaient de sale maman.
J'imagine.
On était tous dans le même panier. Ma sœur Anita et moi... C'était avec mon père Harald. Tu as compris qu'il n'était pas fréquentable. C'est dur d'être jeune dans la famille Wanger.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, ta sœur?
Elle habite à Londres. Elle est chef d'escale à la British Airways. On s'entend bien, mais on a très peu de contacts. Elle ne vient jamais à Eidelstadt.
Pourquoi ?
Je te l'ai dit, notre père est fou.
Mais toi, tu es resté, ton frère aussi.
Les choses sont comme ça.
Ce qui me fascine avec la famille Wenger, c'est les haines réciproques.
Ce n'est pas tout à fait vrai. J'aime énormément Martin et Henrik. Et je m'entends bien avec ma sœur, même si je la vois très peu. En revanche, je déteste Isabella. Et je ne parle pas à mon père. En tout cas, dans cette famille, les choses sont claires. Nous disons ce que nous pensons.
Ah ça, j'ai remarqué, je sonne chez toi et un quart d'heure après, tu me sautes dessus.
Oui. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'y remettre.
C'est pas possible. Divorcé, sans enfant, membre de Greenpeace et d'Amnesty International, mais qu'est-ce que ça peut me foutre ?
Allô ?
Blague ? T'as un peu de temps pour moi ?
Ça dépend combien tu payes.
Ça, je te le dirai quand t'auras trouvé quelque chose.
Dis toujours.
Maître Niels Bormann, 55 ans, juriste, membre de l'ordre des avocats. Je trouve rien sur lui, que des louanges dégoûtantes. Y a un blême.
C'est peut-être un type bien.
Un ignoble salopard. Je le connais.
Qu'est-ce que tu cherches ?
De quoi lui pourrir la vie. Je peux pas t'en dire plus.
Ok, donne-moi ce que t'as.
Il a du fric. Au moins 10 millions de couronnes. Je sais aussi qu'une seule fois, il y a 10 ans, il a été signalé à l'ordre des avocats. Je crois que c'était pour une affaire de sous-table immobilier ou un truc comme ça. Mais il a prouvé son innocence.
Et tu y crois ?
Pas assez lourd, de toute façon. Quitte à l'emmerder, je veux du solide.
Je sais pas ce qu'il t'a fait, mais j'aimerais pas être à sa place.
Il a une ex-femme, Elena, née en Pologne. Mariage pendant 14 ans, divorce à l'amiable. Régulièrement, on lui confie des jeunes qui ont eu des problèmes avec la justice.
Ah, je commence à comprendre.
Rien du tout. Alors, tu prends ?
Te connaissant, je suppose que tu as déjà tout reniflé.
Ouais. Écoute, Plague, toi, tu connais pas l'enfoiré. Tu vas peut-être voir des trucs que j'ai pas remarqués.
Mieux faire que la célèbre Lisbeth, ça m'étonnerait. Enfin, je veux bien jeter un coup d'œil.
Voilà où j'en suis. La biographie de la famille Wenger avance bien. J'ai un premier jet de près de 120 pages.
Qui va jusqu'où ?
Les années 20. J'ai aussi une quarantaine de pages de brouillon sur toi et tes frères, mais je dois encore faire des recherches.
Ça, j'en doute pas.
Je dois aussi me renseigner sur les entreprises à l'époque de la gloire du groupe Wenger, leur structure, leur fonctionnement.
Je peux t'aider si tu veux.
Non, je préfère m'y prendre seul. Tu me payes pour ça. Je crois qu'en tout, il me reste environ 300 pages à écrire. Je pourrais te donner une première version en septembre.
Ouais, dans 6 mois, en gros.
Oui. Après, je peaufinerai le texte pendant l'automne.
Merci pour ces précisions, Michael. Mais tu ne me parles pas du reste.
Oui, je sais. De ce côté-là, je n'avance pas d'un millimètre. J'ai beau lire tous les dossiers, réfléchir sur les détails, je n'en trouve pas un seul pour faire bouger les choses.
Laisse-toi du temps.
Du temps pour quoi ? Je ne trouve rien qui n'ait déjà été exploité jusqu'à la moelle.
Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai réfléchi sur cette histoire, à m'en rendre malade. Et en même temps, je suis sûr que nous avons dû louper quelque chose. Aucun crime n'est aussi parfait que ça.
Mais on n'est même pas sûr qu'il y ait eu vraiment un crime.
Continue, Michael. Va jusqu'au bout.
Ça ne sert à rien.
Peut-être. Mais n'abandonne pas.
Il y a ces numéros de téléphone ?
Oui.
Ils signifient forcément quelque chose. Ils ont été notés sciemment.
C'est ce que je pense aussi.
Mais nous ne savons pas les interpréter. Ou alors, nous les interprétons mal. Ce ne sont pas des numéros de téléphone. Ils veulent dire autre chose.
Peut-être. Michael, si tu crois à cette piste, ne la lâche pas. Fonce, bon Dieu.
être Burman.
C'est Lisbeth Salander.
Tiens, Lisbeth, que s'est-il passé? Tu n'es pas venue à notre dernier rendez-vous.
J'avais du travail.
Mais bien sûr.
J'ai besoin d'argent.
Ma petite Lisbeth, je vais t'en donner, mais comme tu n'es pas très fiable, je vais fixer une nouvelle règle. Tu vas venir chez moi, à mon domicile. Uplandsgatan numéro 15. Je t'attends dans une heure.
C'est d'accord.
Pourquoi t'as besoin d'argent cette fois? Encore des machins pour ton ordinateur?
Pour m'acheter à manger!
Bah, suis-je bête? C'est vrai, t'as raté notre dernier rendez-vous. Tu dois être complètement à sec, ma pauvre petite! Sinon, comment vas-tu? Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit l'autre fois?
Quoi?
Ne te fais pas plus bête que tu n'es. Je veux que toi et moi, on soit bons amis et qu'on s'épaule.
Est-ce que tu as aimé notre jeu pour grande personne de l'autre fois?
Non.
Lisbeth, ne sois pas idiote.
J'ai besoin d'argent pour m'acheter de quoi manger.
C'est exactement ce que je t'ai dit la dernière fois. Il te suffit d'être gentil avec moi pour que je sois gentil avec toi. Mais si tu t'évertues à me contrarier...
Okay. Laisse-moi enlever mon blouson et poser mon sac.
Je t'en prie.
Je veux pas être obligée de te faire une pipe chaque fois que j'ai besoin d'argent.
Mais qui te parle d'une pipe?
Tu m'as vexé. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis civilisé. Je sers jamais le même plat deux fois de suite.
Garde tes cris pour tout à l'heure. T'as encore rien vu.
Mais d'abord, je vais m'assurer que tu restes bien mignonne. Tendance à la violence. C'est écrit noir sur blanc dans ton dossier. Il faut que tu saches me faire confiance, Lisbeth. Je vais t'apprendre les règles de ce jeu pour les grands. Au fait, je t'ai pas dit. Tu reviens ici samedi prochain.
Je ne veux pas m'attacher à toi. Je ne veux pas souffrir.
Cécilia, tu sais que je repartirai d'ici bientôt.
Je sais. Je ne suis pas idiote.
Pourquoi tu ne vis pas avec ton mari?
Tu veux vraiment le savoir?
Enfin, sauf si tu n'as pas envie d'en parler.
Après mes études, je suis venue habiter ici et j'ai commencé à travailler comme professeur. C'est là que j'ai rencontré Jerry. Il bossait dans le groupe Wenger. Au début, tout allait bien. Et puis, il a commencé à me battre. Pas grand-chose, mais tout le temps. Pendant des années, je lui ai trouvé des circonstances atténuantes. Il a frappé une fois de trop.
Comment ça?
Un jour, j'ai rendu les coups. Il est devenu furieux. Il a perdu tout contrôle. Il m'a frappé dans le dos à coups de ciseaux.
Oh mon Dieu, mais...
J'ai dû être hospitalisée 2 jours. 12 points de suture. Henrik est venu me chercher et m'a ramené chez lui. Après, il s'est chargé de faire licencier Jerry. Je ne lui ai plus jamais adressé la parole.
Tu n'as pas voulu divorcer?
À quoi bon? De toute façon, je ne veux pas me remarier. Tu comprends pourquoi j'ai peur de souffrir?
Je comprends, oui.
Et puis... il y a eu mon père. 3 mois après cette histoire, mon frère Birger et moi l'avons accompagné à une chasse aux lièvres, au nord d'Edelstadt. Au début, Harald était presque aimable. Mais soudain, en pleine forêt, il s'est mis à m'insulter.
Il a dit que j'étais une petite garce et que c'était normal que je ne sache pas garder un homme. Et mon frère a commencé à rire.
Salopard.
À un moment, j'ai pris conscience que je tenais un fusil de chasse. Il me suffisait de le lever et de tirer 2 cartouches. Je t'assure, j'avais envie de les tuer, tous les deux. Et puis en fait, j'ai laissé tomber l'arme. Et je suis retournée à la voiture. Je les ai laissés sur place et je suis rentrée seule. Après, j'ai refusé à mon père l'accès de ma maison. Et je ne suis plus jamais allée le voir chez lui. Tu comprends, Michael? Mon père a gâché ma vie. Toute cette famille a gâché ma vie.
Ah, comment vas-tu aujourd'hui, ma chère Lisbeth? Cette fois, tu es à l'heure, je te félicite. J'y suis peut-être allé un peu fort la dernière fois, tu avais l'air mal en point lorsque tu es parti.
On va dans la chambre.
Oui.
Je vois que t'as déjà préparé les menottes.
Oui, mais qu'est-ce que tu fais?
T'as pas ça dans ta panoplie, hein? C'est une matraque électrique. Je viens de te balancer 75 000 volts dans la gueule, connard! T'as eu raison pour les menottes. Comme ça, j'ai pas besoin de les chercher. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Oh, mais j'ai trouvé tes joujoux. Des cravaches, des gones michées, des vaillons. Et ça, ça sert à quoi? C'est ça que t'as utilisé sur moi la semaine dernière. Alors comme ça, t'es un sadique. Attends, je vais te montrer ce que ça fait. Tu te souviens? Arrête de chouiner. Si tu fais des histoires, je serai obligée de te punir. Est-ce que j'ai ton mentir, attention? N'essaye pas de parler, il suffit que tu hoches la tête. T'entends ce que je te dis? Bien. Tu le reconnais? C'est le sac à dos que j'avais la semaine dernière. Je l'ai emprunté à Milton Security. Tu sais? La boîte où je prépare le café. Ça, c'est une caméra digitale. Tu te souviens peut-être que j'ai posé le sac à dos ici, sur la table? Avant que tu ne commences tes saloperies, j'ai bien vérifié que l'objectif était dirigé vers le lit.
D'abord, je vais m'assurer que tu restes bien mignonne. Hein. Tendance à la violence, hein, c'est écrit noir sur blanc dans ton dossier. Il faut que tu saches me faire confiance, bête. Je vais t'apprendre les règles de ce jeu pour les grands.
Je vais t'épargner la suite. Ça dure comme ça pendant 1 heure et demie. J'ai commis une erreur l'autre jour. Je m'attendais à ce que tu m'obliges encore une fois à tailler une pipe. Ce qui est absolument dégueulasse. Et qui ne dépasse pas outre mesure mes compétences. Je m'étais dit aussi que j'allais obtenir des preuves nickel. Pour prouver que tu es un immonde salopard pervers. Je t'avais sous-estimé. J'avais pas compris à quel point t'es une pourriture, tu es pourriture. Je vais être claire. Ce film te montre en train de violer une fille de 24 ans, handicapée mentale, dont tu, elle, tu te rends charge. Et tu es loin de soupçonner à quel point je peux être handicapée mentale quand j'en ai envie.
Je file ces DVD à n'importe qui. Et il comprendra que tu es non seulement une ordure, mais aussi un sadique fou furieux. T'es d'accord avec moi ? Bien ! Comme ça, c'est clair pour tous les deux. Je vais te dire ce qui va se passer. La semaine prochaine, tu donneras des instructions à ma banque. Désormais, je serai la seule à avoir accès à mon compte. Ensuite, tu ne me contacteras plus jamais. Nous ne nous verrons que si je le décide. Compris ? Parfait. Une fois par an, tu enverras ton rapport sur moi à la commission des tutelles. Tu écriras que je mène une existence tout à fait normale, que j'ai un travail fixe et que je me conduis comme il faut. Tu raconteras en détail à quel point je suis positive et combien ça roule pour moi. J'ai pas fini. Dans un an ou deux, tu entameras des pourparlers avec le juge pour obtenir la révocation de ma tutelle. Tu trouveras un psy qui prêtera serment et qui dira que je suis absolument normale. Je te fais confiance pour que ça fonctionne et que je sois déclarée émancipée. Parce que si tu échoues, je balance ce petit film à tout le monde. J'oubliais. Tu me donneras des doubles de tes clés. Pour ici et pour ton bureau. J'aurai désormais le contrôle sur ta vie. Je te surveillerai. Si jamais je te trouve avec une femme... Au fait, s'il m'arrivait de mourir, si j'avais un accident ou je ne sais quoi, des copies de ce film seraient postées à l'adresse des journaux. Je vais te faire un mémo pour que tu n'oublies rien. Pas. C'est la première fois que je tatoue quelqu'un. Tu verras, ça fera extrêmement joli sur ton ventre. Juste une phrase, ça suffira. Je suis un porc, un sadique et un violeur. Maître Burman, je crois que votre vie à partir de maintenant va changer. Pour le pire.
C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Lena Grunbach et Marc de Gouvenin.
Adaptation et dialogue, Sophie Bocquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy.
Quatrième épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Emmanuel Granger, Cécilia Wenger, Michel Baumann, Henrik Wenger, Alain Rimoux, Maître Burman.
Et les voix de Maxime Dambrun et Neta Lando.
Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe.
Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs.